Bonjour à toutes et à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Vous écoutez le Curious Live, l'émission des étudiants du Master en Stratégie de Communication Internationale. Nous vous souhaitons la bienvenue pour le cinquième épisode de cette saison qui porte sur le thème de la communication inclusive. Puisqu'une image vaut mille mots, comme l'a dit Confucius, on va tenter aujourd'hui de décrypter quels procédés sont utilisés pour transmettre un message à travers une image. Pour ça, Flavien et moi sommes aujourd'hui accompagnés de nos camarades Daphné et Eva, ainsi que de Thibaut Depoyant, directeur artistique au sein de l'agence de communication dijonnaise Propulse. Alors dans un monde où on utilise de plus en plus les visuels, on peut se demander quel est le rôle de l'image dans la communication, quel pouvoir les images peuvent détenir pour rassembler les individus. Flavien, des éléments de réponse à nous apporter ?
Alors en communication, les images elles permettent de transmettre des messages, des histoires. En somme, c'est des vecteurs d'émotion. Utiliser des images dans des campagnes de communication, c'est avant tout un choix stratégique de la part des marques, quand on sait que, selon Neotes, plus de 65% de la population a une mémoire visuelle. Mais pour citer également Perception.com, la mémorisation des informations liées à l'image, elle est en moyenne 6 fois supérieure à celle d'un contenu textuel, ce qui contribue donc à un meilleur souvenir du message.
Effectivement, je voudrais aussi rajouter qu'il est important, je pense, que les images soient universelles pour qu'elles soient compréhensibles par tous et pour éviter tout malentendu. D'ailleurs, comment transmettre un message pour les personnes qui ne peuvent pas les apercevoir? Je pense notamment aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Eh bien, aujourd'hui, il existe des adaptations qui permettent aux personnes déficientes visuelles d'avoir également accès à l'image et donc de se sentir davantage incluses. Alors, hormis l'audiodescription, on peut aussi trouver des images tactiles qui utilisent la technique de la gravure ou du thermoformage. Alors, le thermoformage, c'est un procédé qui consiste à chauffer un matériau sous forme de plaque et le mettre en forme avec un moule, à l'instar de l'initiative qui avait été mise en place par le CNED et la MAIF, qui avait lancé une mallette pédagogique qui comprenait une série de supports tactiles qui mettaient à disposition des personnes en situation de déficience visuelle différentes œuvres d'art, l'image de la jeune fille à la perle de Johannes Vermeer ou de l'homme potager de Giuseppe Arcimboldo. Tout ça pour ressentir, grâce au toucher, une meilleure vision mentale des différents éléments des tableaux et ainsi comprendre les techniques et les intentions des auteurs.
Alors on voit qu'il y a une volonté d'inclusion de la part de certaines institutions, ça se reflète au niveau visuel, et le sens des images peut parfois varier d'un pays à un autre en fonction des coutumes, donnant lieu à des maladresses de la part de certaines marques. Daphné, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce sujet ?
En effet, Léa, il y a ce qu'on appelle un biais culturel, c'est-à-dire notre tendance à analyser, interpréter et juger les choses uniquement à travers le filtre de nos propres références culturelles. Prenons l'exemple de la signification des couleurs. En France, on associe le noir au deuil, mais aussi à la sobriété, par exemple, alors qu'en Inde, à l'inverse, le noir est une couleur d'équilibre et de bonne santé. Cela montre ainsi l'importance d'adapter sa communication aux habitudes de chaque pays.
Ah justement, à propos de ça, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ?
Bien sûr, il y a l'affiche chinoise du film Star Wars 7 qui avait été jugée raciste car l'un des personnages principaux, Finn, joué par le britannique John Boyega, avait été rétréci au maximum par rapport à la version originale. Dans une note plus positive, on peut citer le film d'animation Zootopie, dans lequel on peut apercevoir des présentateurs TV changés selon les pays. En Amérique du Nord, c'est l'élan qui avait été choisi, en raison de sa popularité au Canada notamment. Il apparaît également dans les versions européennes, alors que c'est un koala qui est mis à l'honneur en Australie et en Nouvelle-Zélande, ou encore un panda en Chine.
On peut remarquer aussi que parfois, certaines photographies sont utilisées dans un autre contexte que le contexte original, dans un cadre publicitaire. Mais Eva, qu'est-ce qu'il en est des photos détournées à des fins culturelles ou politiques cette fois-ci ?
Il existe en effet de nombreuses photos qui sont détournées à des fins artistiques. Par exemple, il y a la célèbre photo intitulée « Guerrier héroïque » de Che Guevara, qui a été prise initialement lors d'une cérémonie d'enterrement et qui a depuis contribué à entretenir son mythe jusqu'à devenir presque à elle seule un symbole de la révolte. Mais attention, utiliser le visage d'une personne, même célèbre, a ses limites. Il faut être vigilant avec le droit à l'image et les droits d'auteur. Et en ce moment, la question des droits d'auteur pose d'autant plus problème avec l'émergence de l'intelligence artificielle où tout le monde peut générer des images, peu importe son statut.
Merci Eva pour ces précisions. On reviendra à ce sujet sur l'intelligence artificielle un petit peu plus tard dans l'émission. Mais justement, pour éviter tout ce qui est maladresse, bad buzz, etc., il est indispensable de rester neutre dans le ton adopté et dans le message, c'est-à-dire ne pas prendre position. Et pour nous éclairer sur la question, nous sommes ce soir en plateau avec Thibaut Depoyan, directeur artistique de l'agence de communication Propulse à Dijon. Thibaut, bonsoir. Première question, comment construire un support visuel en étant le plus neutre possible, le moins biaisé ?
Bonsoir. Alors la première chose, c'est d'avoir une vision professionnelle. Nous ne sommes pas dans le jugement des opinions, on garde des idées objectives. La seconde, c'est de faire appel à l'intelligence collective, par exemple d'exposer le visuel aux autres membres de l'équipe pour avoir leur ressenti. Dans les faits, il faudra bien sûr éviter les caricatures, par exemple représenter une femme comme une bimbo ou un homme comme un macho. Et il sera préférable pour ça de plutôt s'appuyer sur l'élaboration de persona, qui sont des fiches de personnages fictifs qui vont rassembler des caractéristiques communes, qui sont bien souvent construits en collaboration avec le client, ce qui va permettre d'objectiver et d'avoir le meilleur ciblage possible. Là, il faut aussi être capable de factualiser ses choix pour éviter les clichés, c'est-à-dire donner du sens, savoir justifier. Et enfin, l'utilisation de l'illustration, de mascottes, de pictogrammes permet également de ne pas stigmatiser un public et d'apporter un rapport affectif parfois plus fort. Je pense par exemple aux animaux personnifiés qu'on peut retrouver dans certaines pubs.
C'est vrai qu'il n'est pas toujours simple de rester neutre. On a parfois des biais cognitifs qui peuvent rentrer en jeu. Et au vu de la récente prise de conscience globale autour de la question de l'inclusion, justement, en quoi est-ce que celle-ci a changé votre manière de produire des images ?
Alors, en réalité, il y a peu de changements au quotidien, comme nous avons toujours pris soin de rester ouverts et ne pas tomber dans les caricatures. Hein. Donc, cela demande peut-être une vigilance plus accrue, pas seulement sur le visuel, mais également sur les tournures de phrases, qui ont une grande importance dans notre métier. En pratique, il y a peu de demandes spécifiques, mais on peut ajouter également que ce sont des choses qui peuvent être parfois difficiles à mettre en place. Par exemple, si on nous demande de l'écriture inclusive, les règles sont très précises, les typographies quasi inexistantes et non adaptées. Donc ça rendrait le rendu serait moins lisible et percutant, puisque déjà il prendrait plus de place sur le visuel et plus délicat à lire pour un visuel non... qui n'a pas l'habitude. Donc l'important, ça reste quand même de faire passer le message dans notre métier. Et puis l'illustration, qui peut demander un travail parfois plus long, pourrait être écartée par manque de budget.
Mais est-ce qu'il y a des clients qui vous demandent justement des projets avec l'écriture inclusive ? S'il y en a, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ça ? Et puis l'objectif, le message derrière ces supports ?
Alors, pour l'écriture inclusive, on a eu une seule fois une demande et qui est tombée à l'eau. Pour avoir les difficultés à la mettre en place. On est souvent confronté à la problématique d'inclusion, notamment lorsqu'on veut toucher le plus large public possible. Donc on pense à des clients comme les banques, ou les écoles ou les mutuelles. Et on a par exemple, pour une mutuelle, pris le parti d'utiliser des illustrations, justement pour éviter les stigmatisations et toucher le maximum de personnes. Pour certains clients qui abordent un aspect plus technique, je pense par exemple à un client dans la téléphonie, où il n'est pas toujours possible d'illustrer par la photo ou le dessin, on a créé un système de pictogrammes assez complet. Donc les pictogrammes ont l'avantage de représenter les humains de manière très synthétique. Donc souvent un cercle pour la tête, un rectangle pour le corps. On a également, par exemple, pour des notaires, réalisé une campagne en couplant typographie et emoji. Emoji qui est un langage universel que tout le monde peut s'approprier facilement. J'ajoute une dernière chose, en ce moment on a pas mal de demandes de signalétique pour lesquelles on doit s'adapter en travaillant aussi en braille pour intégrer les personnes non-voyantes. Et ça implique de connaître certaines règles, notamment la hauteur pour placer les panneaux, pour que tout le monde y ait accès, le niveau de contraste sur les éléments, c'est-à-dire il y a un tableau de contraste qui existe d'ailleurs à ce propos, pour que la signalétique soit le plus visible possible.
Un grand merci Thibaut pour vos précieuses réponses. On voit justement que les images peuvent s'avérer être des alliés dans la diffusion d'un message en particulier et que l'art peut servir d'outil d'expression libérateur. Et on en a un exemple frappant justement dans la chanson « Le portrait » de Calogero qui raconte l'histoire d'un petit garçon orphelin qui n'a qu'une photo de sa mère qu'il dessine dans sa chambre pour endormir sa peine à ses côtés. Cette chanson, on vous propose de l'écouter dès maintenant sur RCF en Bourgogne. A tout de suite.
Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison en lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin. Sa maîtresse, pourquoi parent ne prend pas d'ess? Des câlins, il en voudrait tellement, ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Secret, ce dessin il le fait, trait pour trait, à partir d'un portrait. Trait pour trait, à partir d'un portrait.
Nous sommes de retour dans Curious Live sur RCF en Bourgogne, l'émission des étudiants du Master en stratégie de communication internationale. Avant la pause, on vous parlait avec Thibaut de Poyan du pouvoir des images dans la diffusion d'un message. Elles sont de plus en plus utilisées comme outil de dénonciation pour tendre vers un changement d'habitude ou de mentalité. Flavien, quelle est alors l'utilité de ces visuels dans la transmission d'un message ?
Alors, ces messages de prévention, ils sont essentiels afin de prévenir d'éventuelles dérives ou alerter sur une cause en particulier. Les résultats, ils sont malheureusement pas toujours au rendez-vous. C'est à ce moment-là que les visuels, ils peuvent entrer en compte, impactants et accrocheurs s'ils sont bien choisis. Ils ont comme objectif d'apporter un pouvoir supplémentaire, d'alerter davantage les individus sur une cause en particulier à travers une image choc. Ces actions, on les voit notamment à la télévision ou sur les réseaux sociaux.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'images choc qui ont servi à porter une cause en particulier ?
Durant un week-end par an, les joueurs de football du championnat d'Italie, ils arborent une trace rouge sur la joue afin d'alerter et de sensibiliser sur les violences faites aux femmes. C'est une manière efficace de mettre en avant ce combat et de le visibiliser davantage dans l'espace public au vu de l'audience considérable dont il dispose. De même, la marque de fast-food Burger King, elle s'est récemment engagée pour la troisième année consécutive aux côtés de l'association Les Papillons, une initiative qui a été remarquée au niveau digital surtout, avec une LED du logo qui était exceptionnellement devenue grise sur leurs différents réseaux sociaux, tout comme dans leur restaurant, avec 10% des tables ou des sacs de cette même couleur, pour alerter sur ce même pourcentage d'enfants victimes de harcèlement en France à l'heure actuelle.
Mais si on met de côté les marques, est-ce que c'est possible qu'une action choc soit initiée par un citoyen ou un internaute lambda ?
Bien sûr. On aperçoit régulièrement des actions qui prennent de l'ampleur grâce à Internet, permettant de sensibiliser aux problèmes de diversité et de visibilité des minorités dans l'espace médiatique. On peut par exemple citer le Vogue Challenge, qui consiste à se prendre en photo en ajoutant le logo du célèbre magazine. C'est un challenge qui avait inondé les réseaux sociaux en 2020, après avoir été initié par différents internautes qui se plaignaient d'un manque de diversité au sein des différentes couvertures. Une action qui avait été débutée dans la continuité du mouvement Black Lives Matter, où on pouvait observer de nombreux carrés noirs sur les réseaux sociaux pour dénoncer la mort de George Floyd et d'une manière générale le racisme systémique envers les Afro-Américains.
Alors, toutes ces actions rassemblent les foules en communauté, ces communautés se battent pour une cause commune, et cette idée de fédération, de rassemblement, c'est un pouvoir très fort des images, qui ne sert pas seulement à dénoncer, mais aussi à la solidarité, au travers de plusieurs initiatives, et notamment grâce à la création d'outils d'accessibilité sociale. Daphné, je vous laisse la parole maintenant pour nous en parler, si vous voulez bien.
En effet, la solidarité représente la valeur sous-jacente et fondamentale de la communication inclusive. Mais alors, comment se manifeste-t-elle pour la partie visuelle ? Eh bien, de plein de façons. Aujourd'hui, on a un grand nombre de méthodes à suivre ou d'outils à favoriser l'accessibilité sociale. Par exemple, il existe la CAA, la communication alternative et améliorée, qui est un ensemble de techniques et d'outils qui permettent à des personnes ayant des difficultés de communication, notamment celles du trouble autistique par exemple, de s'exprimer ou de comprendre autrui.
Au niveau éducatif, on retrouve d'autres initiatives mises en place, je crois. Je pense notamment à la notion d'apprentissage visuel. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet ?
Oui, alors pour une communication visuelle inclusive, ça passe aussi par une éducation inclusive pour toutes et tous. Pour illustrer cela, on peut citer l'Espagnol Miriam Reyes, architecte de formation qui s'est tournée vers l'enseignement en utilisant l'apprentissage visuel. Elle souligne que le cerveau traite les images beaucoup plus rapidement que le texte et qu'elle laisse une empreinte plus durable dans la mémoire. Elle a cofondé Apprendis Visuales, apprenti visuel en français, une organisation visant à rendre l'apprentissage plus inclusif pour les enfants en difficulté. Leur initiative a touché plus d'un million d'élèves. En 2016, l'organisation a remporté un prix pour son innovation sociale.
Une super initiative, en effet. On voit que les images ont le pouvoir d'unir, de fédérer, de faire passer un message universel, peu importe l'endroit du monde dans lequel on se trouve. Eva, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces images connues de tout le monde et les enjeux soulevés par ces images ?
Les images, elles sont omniprésentes dans l'espace public et ces images jouent un rôle important dans la communication visuelle. Il existe notamment des symboles reconnus mondialement, comme le symbole de la paix, qui fut adapté lors des attentats de 2015 pour intégrer la Tour Eiffel, véhiculant un message puissant et fédérateur. Les réseaux sociaux ont également introduit une variété d'émojis reconnus et compris par tout le monde et offrant une représentation plus diversifiée des personnes. Nous avons aussi les GIFs et les mèmes qui captent rapidement l'attention et qui offrent un langage visuel universel, facilitant la communication et l'expression sur diverses plateformes en ligne.
Et puis il y a un outil qui a été beaucoup diabolisé aussi ces dernières années et dont on parle beaucoup en ce moment, c'est l'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi IA. En quoi, Eva, l'intelligence artificielle peut être une aide pour créer des images plus inclusives ?
Oui, alors, dans un premier temps, les algorithmes de reconnaissance d'images peuvent être formés pour identifier et inclure une plus grande diversité de personnes, de cultures et de caractéristiques physiques. Donc ça peut garantir une représentation plus équilibrée dans les images, tant que l'IA est performante, c'est-à-dire tant qu'elle a les bonnes informations et les bons éléments pour permettre ses créations. De plus, les outils d'intelligence artificielle peuvent permettre la personnalisation des images pour répondre à des besoins individuels. L'IA peut notamment être utilisée pour identifier des biais existants dans les images et aider ensuite les créateurs à les corriger. Donc en somme, si l'IA elle est correctement utilisée, elle peut effectivement aider à obtenir une communication visuelle plus inclusive.
Merci beaucoup Eva pour ces précisions. Un grand merci également à Daphné, Flavien et à vous Thibaut Despoyant d'avoir été présents avec nous ce soir. C'est déjà la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver en replay sur rcf.fr sous le nom C'est le Mag étudiant Massy. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le thème de l'inclusion, n'hésitez pas à aller visiter notre blog, le Curious Blog, sur notre site internet junioragencemassy.fr. Quant à nous, on se retrouve le 8 février prochain à 18h10 sur RCF en Bourgogne pour échanger sur une nouvelle thématique en rapport avec la communication inclusive. D'ailleurs, si vous souhaitez explorer davantage ce thème, on vous rappelle que le Master Massy organise son After Work le 8 février également à 18h à l'espace culturel Un singe en hiver à Dijon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site ou nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous !